Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose de lire avec moi un épisode que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres. Nous prenons notre lecture au chapitre 10, à la fin de ce chapitre, au verset 44. Cet épisode, c'est la rencontre entre l'apôtre Pierre et le centenier Corneille. L'apôtre Pierre a été envoyé par le Seigneur pour compléter la connaissance que Corneille et les siens avaient de Dieu et pour leur donner des éléments qui leur permettaient d'entrer complètement dans le chemin de la foi. Et à la fin de l'entretien, nous lisons ceci. Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. Ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre. Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu. Ils entendaient ces gens, en effet, parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint? Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ et ils lui demandèrent alors de rester encore quelques jours. Les apôtres et les frères établis en Judée avaient entendu dire que les nations païennes, à leur tour, venaient de recevoir la parole de Dieu. Lorsque Pierre remonta à Jérusalem, les circoncis eurent des discussions avec lui et lui firent des reproches. « Tu es entré, disait-il, chez des incirconcis, notoire, et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le début et la leur exposa point par point. « Comme je me trouvais dans la ville de Joppé, en train de prier, j'ai vu en extase cette vision. Du ciel descendait un objet indéfinissable, une sorte de toile immense qui, par quatre points, venait se poser du ciel et arriva jusqu'à moi. Le regard fixé sur elle, je l'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les animaux sauvages, ceux qui rampent et ceux qui volent dans le ciel. Puis j'entendis une voix qui me disait « Allez, Pierre, tue et mange. » Jamais, Seigneur, répondis-je, car de ma vie, rien d'immonde ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Une seconde fois, la voix reprit depuis le ciel. Ce que Dieu a rendu pur, toi ne vas pas le déclarer impur. Cela recommença trois fois, puis le tout fut de nouveau hissé dans le ciel. Et voilà qu'à l'instant même, trois hommes se présentèrent à la maison où nous étions. Ils m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit de m'en aller avec eux sans aucun scrupule. Les six frères que voici m'ont accompagné. Et nous sommes entrer dans la maison de l'homme en question. Il nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter dans sa maison et lui dire « Envoie quelqu'un à Joppé pour faire venir Simon, qu'on surnomme Pierre. Il exposera devant toi les événements qui apporteront le salut à toi et à toute ta maison. » À peine avais-je pris la parole que l'Esprit Saint tomba sur eux comme il l'avait fait sur nous au commencement. Je me suis souvenu alors de cette déclaration du Seigneur. Jean, disait-il, a donné le baptême d'eau, mais vous, vous allez recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. Si Dieu a fait de ces gens, à ces gens, le même don gratuit qu'à nous, pour avoir cru, au Seigneur Jésus-Christ, étais-je quelqu'un, moi, qui pouvait empêcher Dieu d'agir ? À ces mots, les auditeurs retrouvèrent leur calme et ils rendirent gloire à Dieu. Voilà que Dieu a donné aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la vie. Nous sommes dans une époque particulière puisque la Nouvelle Alliance est entrée dans l'histoire, puisque l'ancienne alliance a pris fin. Jésus-Christ est venu, il a révélé le Père, il est mort pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Le salut a été ainsi accompli. Le Saint-Esprit est venu, l'Église est née et a commencé à vivre son histoire. Mais cette histoire de l'Église s'enracine dans l'histoire plus vaste du plan de Dieu. La première Église, celle de Jérusalem, est composée de Juifs convertis à Jésus-Christ, mais l'Évangile, comme la promesse, est pour tous, et cela depuis les origines. Dieu, dans l'Ancien Testament, a déjà intégré à son peuple des non-Juifs qui se sont attachés à lui par la foi, Rahab, Ruth et bien d'autres. Au début du Nouveau Testament, les privilèges des Juifs et l'attachement aux traditions sont constamment rappelés par les pharisiens en particulier. Et tout le début et tout le déroulement du ministère de Jésus s'inscrit dans ce contexte. Les polémiques entre les pharisiens en particulier, et Jésus, sur des questions nombreuses et variées. Ces polémiques émaillent tous les récits des évangiles et concernent bien sûr des débats sur le sabbat, sur les ablutions, sur les aliments, sur la dîme. Mais au cœur de ces débats et de cette problématique, il y a bien sûr le problème particulier de la circoncision, ce signe physique d'appartenance au peuple de Dieu depuis Abraham, ce marqueur identitaire incontournable pour les Juifs. Les premiers chrétiens, qui sont donc tous d'origine juive, sont historiquement marqués par la loi et par ses traditions. Un changement doit s'opérer dans leur mentalité, car un certain nombre de dispositions qui étaient dans l'Ancien Testament étaient pour le temps de l'Ancien Testament, mais avec la venue de Jésus-Christ, il y avait des changements radicaux qui intervenaient sur certaines de ces dispositions, et d'abord sur ce signe particulier d'appartenance au peuple. Un changement doit s'opérer dans la mentalité des chrétiens, dans leur façon de voir, leur compréhension à la fois de la continuité par rapport au plan de Dieu révélé dans l'Ancien Testament et à la nouveauté de l'Évangile. C'est tout l'enjeu de notre récit. Notons juste cependant ici que si la conversion et le baptême du centenier Corneille et de tous ceux qui étaient avec lui constitue un événement majeur pour la première Église, Corneille n'est pas le premier converti non-juif. Dans les récits des Actes, c'est le ministre éthiopien, enseigné et baptisé par Philippe, qui est historiquement le premier. C'est lui qui ouvre l'entrée des convertis non-juifs dans le peuple de la Nouvelle Alliance. Mais ce ministre éthiopien a continué son voyage, tandis que le centenier Corneille était à Jérusalem. Pierre, lui, après avoir été appelé et envoyé à Césarée pour enseigner et baptiser Corneille, après avoir été le témoin surpris et bouleversé de l'effusion de l'Esprit sur Corneille et sa maison, Pierre revient donc à Jérusalem. C'est le début du récit d'Acte 11. À Jérusalem, tous les chrétiens accueillent Pierre, mais au milieu d'eux, certains, ceux qui sont vraiment d'origine juive, l'interpellent. Et nous avons entendu leurs questions. Comment ? Tu es entré, disent-ils, chez des incirconcis notoires, et tu as mangé avec eux. Comment, après avoir appris que l'Esprit avait été répandu sur les païens, comment des chrétiens peuvent-ils tenir un tel langage ? Comment est-ce possible de mettre en opposition la conversion des personnes de la maison de Corneille et le fait que Pierre soit entré chez des incirconcis notoires et d'avoir mangé avec eux ? On connaît les reproches que les pharisiens faisaient à Jésus, par exemple, pour le fait que Jésus guérissait des personnes handicapées le jour du sabbat. Déjà là, on a vu que l'enfermement dans cette tradition les rendait totalement insensibles, inhumains à l'égard de la détresse de ces personnes, et qu'ils ne savaient pas voir le grand bienfait accordé en face de ce qui heurtait leur conception religieuse. Mais que des chrétiens en arrivent à dire des choses pareilles, comment est-ce possible à faire des reproches à Pierre sur le fait qu'il est entré chez des incirconcis notoires et qu'il a mangé avec eux, alors qu'il vient d'apprendre que les non-juifs viennent d'accepter la parole de Dieu et de se tourner vers Jésus comme leur sauveur. Il faut juste ici que nous mesurions un peu la distance historiquement immense qui nous sépare de cette époque et de ces traditions. C'est vrai que dans la tradition de l'Ancien Testament, le peuple juif avait été choisi pour recevoir de Dieu la révélation de la loi, mais aussi pour être le porteur de cette loi de Dieu et des promesses qui s'y rattachent à l'ensemble des nations. Et on a vu au fil du temps que les traditions et l'attachement aux privilèges avaient pour un certain nombre de juifs pris le pas sur la mission qui leur avait été confiée de porter la parole aux nations. Et donc un certain nombre étaient très attachés à cette séparation et à cette distinction. Les incirconcis notoires. Et puis il y avait aussi ce fait d'avoir mangé avec eux, ça a l'air banal aujourd'hui, hein. Je crois qu'aujourd'hui encore plus qu'il y a 20 ou 30 ans, ou 40 ou 50, le repas ensemble a du sens, mais pas tout à fait le même, pas aussi fort en tout cas qu'à l'époque, où la commensalité, le fait d'être assis autour de la même table, de partager le même repas, était un signe fort de communion entre les personnes qui partageaient ce repas autour de la table. C'était dire donc que Pierre avait partagé une vraie communion avec ce que ces chrétiens-là appelaient des incirconcis notoires. Ici, peut-être, vous vous dites, mais enfin, qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui une histoire comme celle-là, et quel peut être le rapport. Je voudrais juste dire que, en ce qui concerne la piété, les formes de la foi, il y a dans tous les temps et dans toutes les époques à la fois le fondement de la vie et de la foi elle-même, et puis les formes dans lesquelles cette foi s'exprime, et que nous ne sommes pas sans avoir nos propres traditions et nos propres formes. Et que nous aussi, nous sommes appelés à être en communion, en relation avec des gens très différents, même au sein de notre propre Église. Alors, je remarque dans notre récit qu'on a bien eu soin de souligner que ce ne sont pas tous les chrétiens de l'Église de Jérusalem, mais certains qui ont interpellé Pierre. Il y a des différences, comme il y en a chez toutes les églises, et l'importance des signes d'appartenance et des marqueurs identitaires n'est pas la même pour les uns ou pour les autres. Pour certains, donc, ces deux réalités, le fait d'avoir été dans une maison de païens et d'avoir mangé avec eux de la part de Pierre, et le fait d'avoir appris que les chrétiens s'étaient tournés vers Jésus, ces faits leur paraissent contradictoires, opposés, impossibles à harmoniser, à gérer ensemble. Ils ne peuvent pas faire la distinction et hiérarchiser ce qui est plus important et ce qui est moins important. L'un de ces faits, bien sûr, devrait les réjouir, la conversion des païens. L'autre les heurte, les attriste et leur pose problème. Qu'est-ce qui est le plus important? Oui, cette problématique, nous pouvons, à beaucoup de siècles de distance, la rencontrer aussi. Nous pouvons nous aussi nous trouver face à ce genre de situation. Au fil des années, certaines de nos traditions changent. Nos églises évangéliques rassemblent des chrétiens d'origine, de culture, de tendance ou d'étiquettes différentes. Comment vivre notre unité dans la diversité? Notre texte éclaire cette problématique. Il faut du temps pour comprendre un passage qui rend caduque des traditions de séparation entre peuple des circoncis et peuple des incirconcis, au profit du rassemblement d'un seul peuple, le peuple des croyants. Nous pourrions remplacer ces mots « peuple des circoncis », « peuple des incirconcis » par beaucoup d'autres qualifications de tel ou tel groupe, tel ou tel peuple. Et Dieu a rassemblé le peuple des croyants. Un seul peuple, le peuple des croyants. Il faut du temps, des actions et une pédagogie pour faire changer de conception les chrétiens. Et Dieu a dû travailler énergiquement l'apôtre Pierre pour le faire changer sur ce même terrain. Pour les croyants d'origine juive qui ont interpellé Pierre, le problème réside moins dans la difficulté de comprendre, on peut comprendre leur difficulté de comprendre, mais dans le fait que, au lieu de poser des questions à Pierre, ils commencent par le juger et lui faire des reproches au lieu de lui poser des questions. Et Pierre donne l'explication en faisant le récit détaillé de ce qu'il a vécu dans la maison de Corneille. Et ce que Pierre a vécu dans la maison de Corneille est extrêmement important. Pierre ne fait aucun reproche à ceux qui lui en font. Il ne renvoie pas la balle. Il ne leur dit pas, mais enfin, vous n'avez pas encore compris qu'on a changé d'époque ? Comment pouvez-vous me chercher noise sur une peccadille anachronique, en plus, au lieu de vous réjouir franchement de cet événement essentiel qu'est la conversion des païens? Non, Pierre ne fait pas ce genre de reproche à ceux qui l'interpellent. Il se souvient de sa propre difficulté à franchir la barrière de la tradition. Il explique patiemment et en détail ce qui s'est passé. J'admire cette attitude de Pierre. Et cela d'autant plus que c'est un grand impulsif. Là, il a fait preuve d'écoute, de patience. C'est important. s'écouter pour essayer de mieux se comprendre. Il nous arrive de ne pas comprendre le comportement de l'autre, de tel ou tel. Faire preuve de patience, d'écoute pour mieux comprendre. Son témoignage est très fort à Pierre. Il est honnête. Il met en avant l'action de Dieu. Il met en avant sa propre difficulté. Il confesse sa position initiale et sa réaction devant l'appel de Dieu. Il discerne et reconnaît l'action du Saint-Esprit. Il exalte la magnificence du Seigneur et la générosité de ce don qui s'étend à tous, ainsi que sa continuité novatrice. L'Évangile est maintenant pour tous. La parole de Dieu est vivante, elle apporte la vie. Dieu a ouvert le cœur des incroyants pour qu'ils entrent sur le chemin de la foi, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, pour qu'ils se convertissent et qu'ils entrent sur le chemin de la vie. Pouvais-je, moi, dit l'apôtre Pierre à ceux qui lui posent la question, ou qui l'interpellent plutôt, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? Voilà la réponse par le témoignage de l'apôtre Pierre. Il finit par leur dire, dans d'autres termes, ce que Paul dira aussi dans ses épîtres. Vous attachez une importance considérable à cette définition des incirconcis et à ce fait d'avoir partagé la table avec eux. Mais la circoncision ou l'incirconcision, ce n'est rien. Ce n'est rien en face de la foi. C'est l'apôtre Paul qui le dit, hein. L'incirconcision ou la circoncision, ce n'est rien du tout. Il n'y a ici ni circoncis ni incirconcis. Si on garde encore pour quelque temps dans le Nouveau Testament ce mot de circoncision, on l'applique à la circoncision du cœur, c'est-à-dire au fait de s'attacher de tout son cœur à Dieu et par ce fait-là de se détacher de tout ce qui est de la nature ancienne. C'est quelque chose qui est très important, cette circoncision du cœur. Elle était déjà annoncée, par parenthèse, dans l'Ancien Testament. Déjà dans le livre du Deutéronome, Dieu avait dit à son peuple, « Vous circoncirez votre cœur », c'est-à-dire, vous ferez en sorte de vous attacher de tout votre cœur, de toute votre âme, à votre Dieu, en vous détournant du péché et des idoles. Et puis, dans la réalité, comme l'être humain, comme les Juifs, comme le peuple de Dieu, ne peut pas, dans le profond de lui-même, circoncire son cœur, c'est Dieu qui promet d'accomplir cette œuvre. Comme vous ne pouvez pas le faire, c'est l'Éternel qui circoncira votre cœur. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Dieu accomplit cette œuvre profonde de transformation. Et voilà que maintenant, ces distinctions, ces qualificatifs, ces séparations sont tombées. Il y a le peuple de Dieu qui témoigne à tous que chacun peut entrer sur le chemin de la foi, sur le chemin de l'appartenance à Jésus-Christ et de la marche avec lui. Le témoignage de Pierre a été écouté par ceux qui venaient de lui faire des reproches. Ses paroles, ce récit leur ont ouvert les yeux et le cœur. Ils ont compris. On peut changer. On peut se débloquer par rapport à un certain nombre de points fixes qui sont là encore parfois. Ils ont compris. Ils ont changé de pensée, de sentiment et de discours. Et ils se sont enfin réjouis. Et ils ont loué Dieu après avoir fait des reproches à Pierre. Ils reconnaissent enfin la grandeur de la grâce de Dieu. reconnaître la grandeur de la grâce de Dieu, reconnaître l'importance du salut, de la foi en Jésus-Christ et de la marche avec lui. Je voudrais conclure ce récit et ce moment de réflexion par un texte de la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 2. Je lis quelques versets de ce chapitre en conclusion de cette réflexion. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse: poursuivez donc votre route dans le Christ Jésus, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée et débordés de reconnaissance. Un peu plus loin. En Christ habite toute la plénitude de la divinité, et vous vous trouvez pleinement comblés en celui qui est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En lui, dit l'apôtre, et voilà que revient ce mot de la circoncision, en lui vous avez été circoncis, d'une circoncision où la main de l'homme n'est pour rien, et qui vous a dépouillé de votre corps charnel, telle est la circoncision du Christ, ensevelis avec lui dans le baptême, avec lui. Encore, vous avez été ressuscité, puisque vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné nos fautes. Il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Dans ce langage imagé, peut-être pas très facile à comprendre, nous reconnaissons cette reconnaissance de dette que nos péchés avaient accumulés devant Dieu en notre défaveur. Comment paraître devant Dieu avec une telle somme de dettes à cause de notre péché? Il nous a pardonné nos fautes. Il a annulé le document accusateur que les commandements que nous n'avions pas réussi à assumer retournaient contre nous. Il l'a fait disparaître, il l'a cloué à la croix. Dès lors, que nul ne vous condamne pour des questions de nourriture, de boisson, à propos d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre de ce qui devait venir. Mais la réalité relève du Christ. L'ombre est la réalité. Que personne ne vous juge au sujet des boissons, des sabbats et de ces questions que les Juifs qui ont interpellé Pierre mettaient en avant. C'était l'ombre, la réalité est en Christ. Je voudrais juste suggérer que lorsque nous avons à nous confronter à des choses différentes de celles dont nous avons l'habitude, ou si nous avons des attitudes ou des comportements qui nous surprennent, que nous nous posions des questions pour comprendre, mais que nous nous interrogions pour savoir s'il s'agit de l'ombre ou de la réalité, de savoir ce qui est à la marge des formes même de la foi et de la piété, ou ce qui est au cœur de la vie en Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes mort, en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. La réalité est en Christ. Nous avons en lui tout pleinement. Et dans un instant, nous allons commémorer le grand sacrifice par lequel nos péchés ont été pardonnés et par lequel nous avons reçu la vie éternelle. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Je vous invite à nous préparer ensemble à ce partage du pain et du vin dans la communion du Christ mort et ressuscité pour nous, en chantant le cantique rédempteur adorable sur la croix attachée, traité comme un coupable brisé pour mon péché. Je vous invite à vous